L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème « Demain ne meurt jamais », un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Seconde journée ici à l'AREF, la rencontre des entreprises de France avec le MEDEF. Seconde journée, il est 15h35 maintenant, nous sommes toujours en plateau, vous pouvez encore venir, on est ouvert jusqu'à 19h, il y a beaucoup de monde. En tout cas, si vous n'avez pas pu venir, vous pouvez suivre nos émissions à distance et les podcasts sont téléchargeables comme d'habitude sur l'application. On va parler entrepreneuriat bien évidemment. Alors on ne peut pas ne parler d'entreprise si nous ne sommes pas avec sur le plateau l'une des personnes qui nous fait aimer l'entreprise, et d'ailleurs... Elle a même créé un événement qui s'appelle J'aime ma boîte. Elle anime même d'ailleurs sur une émission dans laquelle d'ailleurs, sur laquelle je vais d'ailleurs aussi intervenir puisque je reprends la tranche 9-15-10h tous les samedis sur Sud Radio. Elle y anime d'ailleurs son émission qui s'appelle J'aime ma boîte. Elle dirige le mouvement d'entrepreneurs éthiques au niveau national. C'est Sophie de Menton. Comment ça va, Sophie ?
Très bien quand je vous vois.
Ouais, on se voit d'ailleurs chaque année ici, c'est notre rendez-vous. Et tous les trois mois, on se voit pour les fameux colloques.
Les fameux colloques d'éthique,
web radio. Dans nos studios, très attendus et extrêmement bien construits. Alors, on vous connaît bien, Sophie. Vous avez le verbe fort, le verbe haut. Vous dites nous tout haut ce que les gens pensent tout bas, sans aucun filtre. Et c'est très bien, c'est même jubilatoire de vous écouter. Parce que c'est bien d'entendre des vérités comme ça, claires, nettes et précises. Qu'est-ce que vous inspire, comme ça, spontanément, cette édition 2023 de la rencontre des entreprises de France avec le MEDEF ?
Alors, ce sont des sentiments mitigés. D'abord, c'est le sentiment d'une réunion de famille. Ça, j'aime bien. On aime bien les réunions de famille. On voit des gens qu'on n'a pas vus depuis 20 ans. On voit des gens qui ont évolué. On voit des politiques accessibles qui ce jour-là, trouvent l'entreprise formidable. Tous les politiques qui viennent là sont émerveillés par l'entreprise. Enfin, on est... Voilà. Ensuite, j'ai une vraie frustration. C'est que cette année, comme l'année dernière et probablement comme l'année prochaine, on invite et on demande, parce que l'actuel président Patrick Martin a lui-même demandé au président de la République d'ouvrir avec une vidéo. Pourquoi pas ? C'est toujours sympathique que le président de la République dise un mot pour les entreprises, mais en vidéo. Je ne comprends pas pourquoi on n'invite pas les politiques à s'asseoir au premier rang des gradins, comme nous le sommes tous, et pour qu'ils répondent, qu'on leur explique sur scène ce qu'est notre vie, ce que sont nos difficultés, ce qu'il faudrait pour que nous réussissions, et qu'ils nous posent des questions pour savoir quoi faire. Je pense qu'on a inversé en France l'ordre des valeurs. Je veux dire, on a un État qui dépense, des entreprises qui gagnent, qui sont des soutiers de la République.
Mais c'est vrai. Je partage complètement votre point de vue.
Merci.
Des soutiers de la République.
Mais non, mais il n'y a pas quelque chose.
Vous savez, parfois même la quantité négligeable de la République, où on va puiser quand on a besoin d'un peu d'argent, à qui on va appliquer des mesures fiscales confiscatoires, des inflations normatives à n'en plus finir. Et quand on les voit de temps en temps, on leur dit qu'ils sont les plus beaux, les plus grands, etc. Il y a une espèce de paradoxe. Vous savez que c'est balzacien, hein, ce que vous dites là. C'est presque une comédie humaine que l'on voit.
C'est vrai que c'est la comédie humaine.
Ouais.
C'est vrai. Vous venez exactement de dire la suite de ce que j'allais dire. Et donc, je ne comprends pas. Et les présidents successifs du MEDEF, il faudrait qu'ils aient un peu de courage, là. L'année prochaine, il leur dit, vous venez, vous vous asseyez, vous posez les questions aux entrepreneurs, c'est eux qui sont sur la scène.
Est-ce que vous pensez... Alors intéressant. Oui. Je vais ouvrir le débat. De toute façon, on s'est toujours dit, tous les deux... Quand on est en interview, on se dit les choses comme on les sent. Est-ce que ça serait pas... Est-ce qu'il n'y a pas une compréhension ou une lecture différente quand on est à la tête d'un syndicat ou d'une organisation où on est quelque part, entre guillemets, hein, de faire preuve de pragmatisme et de réalité. Je ne dis pas qu'on recherche systématiquement le compromis, mais que le côté frontal, parfois, on est obligé de prendre une troisième voie.
Alors, vous avez forcément raison. La preuve, c'est qu'ils ont tous la trouille de prendre une voie frontale.
Ben oui.
Alors, simplement, ce que me disait Geoffroy Roux de Bézieux, qui a été un formidable président, et je lui rends hommage, oui, parce qu'on ne lui a pas rendu hommage ici, il a eu une période très très difficile. Hein. Il aurait pu faire plus pour les retraites, etc. Il avait le Covid, il avait une crise, enfin bon. Cela dit, et il me disait, dis-le, toi, moi, je ne peux pas. Et je comprends très bien ce qu'il disait, parce qu'il me disait, demain je vais être assis à la table des négociations, j'aurai à ma droite la CGT, à ma gauche un ministre quelconque, et donc je suis obligée de composer, et je ne peux pas aller frontalement contre eux, sinon j'obtiendrai rien. Donc vous avez parfaitement raison. Et pourtant, je pense qu'on est à un moment où il va falloir frontalement dire la vérité aux Français.
Je suis d'accord avec vous.
Bon.
Je suis d'accord. Est-ce que, justement, c'est intéressant, puisqu'on fait tous le même constat. On se dit, énième rapport, énième commission, énième consensus, énième prise de parole, à un moment donné, on a au quotidien des petites et moyennes entreprises qui crèvent. Crèvent, hein.
Alors,
avec des statuts, notamment de l'employeur, du mandataire social, qui n'a pas considérablement évolué. S'il n'y avait pas eu le privé pour créer, par exemple, la GSC, pour créer des statuts qui leur permettent de se sauver, en fait, on se dit, je vais vous dire, je fais une analogie, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Quand on est entrepreneur, on se dit finalement, mais qu'est-ce qu'on y gagne? Mais quand on est en politique, on se dit aussi, qu'est-ce qu'on y gagne? Est-ce qu'il n'y a pas finalement une similarité de statut entre les deux qui fait que, quelque part, et comment vous interprétez-vous le fait que les politiques sont pas du tout attentifs à ce type de désarroi? Voilà.
Je pense qu'il n'y a absolument aucun rapport entre les deux.
D'accord. Pour vous, il n'y a pas de rapport entre
aucun.
Les deux.
Aucun. Parce qu'un politique, d'abord, il ne sait pas ce que c'est qu'une boîte. Moi, je suis fascinée. Figurez-vous qu'au sein du mouvement éthique, nous avons contacté les différents chefs de parti. On leur met 15 patrons, ils nous mettent 15 parlementaires. En face à face, on travaille 2 heures. Eh bien, ils sont scotchés, les parlementaires, parce qu'on leur dit de la réalité de la vie. Donc, non, ils ne savent pas ce que c'est.
C'est effrayant, vous vous rendez compte? Vous avez l'impression de leur apprendre quelque chose et vous dites, mais vous devriez le savoir, puisque c'est vous qui pondez.
Alors,
précisément.
Non, ils votent.
Ouais.
Ils votent.
Ah ouais.
Et déjà, maintenant qu'ils veulent bien nous écouter avant de voter, c'est formidable. Mais oui, ils font des lois pour sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Alors, il ne faut pas exagérer, il y en a qui connaissent. Bercy est un ministère très compétent, par exemple. Ça, c'est vrai.
Mais, c'est d'ailleurs celui qui domine tous les autres.
Hein. Absolument.
On peut être très clair. Hein.
Absolument. Le politique, il veut être réélu. Alors maintenant, la classe politique, pardonnez-moi, et je m'excuse d'avance auprès de certains très efficaces, elle a considérablement baissé en valeur, en compétences plutôt. En l'occurrence, maintenant, on est très contents, ce sont les secrétaires, les assistants parlementaires qui deviennent ministres. Donc c'est bien,
mais
enfin
mais
on avait
pas, oui, pourquoi pas.
Ouais. Non, parce qu'ils connaissent pas l'entreprise, ils connaissent pas non plus le reste, ils ont une connaissance au jour le jour de la vie politique. Donc non, les politiques veulent se faire réélire, ils ont une clientèle. Il y a un problème, c'est que avant ils avaient le droit à un cumul de mandats, et je suis désolée, mais quand vous êtes maire d'un patelin, vous en savez un peu sur la vie.
C'est clair. Le problème, c'est que les honorités d'un maire d'un patelin sont pas cumulables avec les revenus, les indemnités d'un parlementaire, par exemple. C'est dommage.
C'est très dommage, et c'est quelque chose qui manque considérablement. Donc non, c'est un monde à part, et ce sont deux mondes qui sont de plus en plus séparés. C'est un monde à part, le monde politique. Et les chefs d'entreprise, eux, bah, je veux dire, ils sont en prise à tout. J'en connais d'exceptionnels. J'en connais qui ont démarré de zéro. Je pense à Philippe Ginesté, Jiffy, que je voyais cet été, qui a démarré en balayant les marchés et qui a une fortune de plusieurs milliards et qui est 27e français et qui a monté des boîtes Jiffy que tout le monde connaît et qui est encore avec les vendeuses des grandes surfaces.
Comme quoi, il a eu une idée de génie.
Il a eu une idée de génie, je ne vous le peux pas dire. Et si vous voulez... Ça, alors, je voudrais dire un mot parce que je crois qu'il va y avoir un film qui va sortir sur lui. C'est un type qui s'amuse.
Ah
oui, mais évidemment, dans un film qui sort sur un patron qui a réussi, il sera forcément très critique.
Et il se rappelle toujours d'où il vient.
Oui, toujours. Toujours.
Il n'a pas oublié.
Non. Et c'est assez extraordinaire parce qu'il s'amuse. Il joue avec les salariés, ils font des parties de poker, il les emmène, il les invite. Enfin, donc il y a un côté ludique, de plaisir incroyable et qui a un peu quitté nos patrons.
Bien sûr.
Et
côté
et ça,
peut-être
c'est
un peu patriarcal, d'une certaine mesure.
Non, c'est pas patriarcal parce que lui, il n'a pas hérité.
Ouais, oui. Quand je dis patriarcal, c'est-à-dire qu'il a une attitude vis-à-vis de ses collaborateurs. C'est un personnage quand même. Hein.
C'est un personnage.
Ouais. On en manque des personnes comme ça.
Et puis il les aime. Et vous savez quoi, quand j'aime ma boîte, il m'a téléphoné un jour, j'avais monté ça, il dit mais c'est à moi ça. Je lui dis mais comment? Il dit mais j'aime ma boîte, c'est moi. Et donc c'est un des premiers supports de j'aime ma boîte.
Bien sûr.
Et il fait des fêtes invraisemblables. Il est. il prend plaisir. Et donc, on a oublié cette notion de plaisir dans le monde de l'entreprise, qu'on nous a fait oublier. On parle de taxes, on parle d'horreur. Et d'ailleurs, il y a les médias un peu, heureusement que vous êtes là, mais il faudrait un petit peu parler de choses plus gaies. C'est plus possible. Le catastrophisme permanent est terrible.
D'ailleurs, le niveau du moral des Français, statistiquement,
mais évidemment.
Il a baissé de plus de 50% sur les 10 dernières années. C'est-à-dire que les gens sont déprimés par nature.
Mais pardonnez-moi, mais je crois que le poids des médias est très important.
Alors,
c'est nous, hein. Nous, on regarde les médias et on regarde les buzz négatifs.
Vous savez, j'en ai parlé hier sur la radio, sur une théorie, enfin une loi qui a été développée par un sociologue italien en 2013, qui s'appelle l'asymétrie, du verbe asymétrique, des baratins. L'asymétrie des baratins. Alors, l'asymétrie des baratins consiste finalement à celui qui donne une fake news, quelque chose de très négatif, appel à l'émotion.
Non, mais fake news, attendez, c'est faux d'abord.
Alors, oui, non, mais qui fait appel à l'émotion, à l'émotionnel, qui souvent est faux d'ailleurs, émotionnel, ou la colère, aura plus d'impact que celui qui dit la vérité.
Mais bien sûr.
Et il va
J'ai
plus
vu
loin.
Ça.
Et il va plus loin. Il va plus loin. Il dit voilà, et il a mesuré, il a fait des recherches. Lorsqu'il y a un débat entre une personne qui dit des conneries, pardonnez-moi l'expression, et la personne en face qui va démonter l'argument qui est faux, mettra 10 fois plus d'énergie à la démonter. Donc il perd, en fait, à chaque fois.
J'ai lu cette étude qui est tout à fait intéressante et remarquable.
Et donc la formule que moi je donne quand je lis...
Et le scientifique perd devant l'émotion.
Absolument. Et je vais vous dire, dites des mensonges, vous êtes cru, et dites la vérité, mais vous êtes cuit.
Je sais.
Voilà. quelque part, c'est-à-dire que c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous avez une gouaille, une parole qui est libre et qui a de l'audience. On est d'accord là-dessus. On vous connaît parce que vous dites des choses très directement, sans aucun filtre, avec une vérité qui est presque évidente, aussi évidente que celui finalement qui utiliserait la symétrie du baratin.
Donc, possible.
Comment fait-on à des personnes qui colportent ou qui utilisent des fausses informations, ça peut être aussi des politiques pour manipuler l'opinion. Là-dessus, vous avez aussi les réseaux sociaux qui sont un véritable déversoir de frustration et de bêtises sans nom. Donc, je trouve réjouissant qu'il y ait des mouvements comme Éthique incarnés par vous, qui justement remettent l'Église au centre du village, vous voyez ? Ils disent, attendez les gars, voilà, parce que vous connaissez les choses. Il faut juste rappeler au public qui vous écoute que vous êtes avant tout une femme entrepreneuse.
C'est vrai.
Depuis très longtemps. Et donc, du coup, vous savez de quoi vous parlez.
Oui, alors, je vais même être plus simple que ça. Je crois qu'effectivement, on me dit très souvent, franchement, vous êtes courageuse. Et honnêtement, je vous promets...
Non.
Mais le courage, pour moi, serait de me taire. Et donc, quand on me dit ça, quelquefois, je me dis, non, je ne vais pas le dire. Allez, soyons courageux, je ne vais pas dire ça. Je vais me censurer. Le courage, pour moi, c'est de ne pas dire.
Ben oui.
Car je suis une émotive, je suis un peu primaire dans ma façon de m'exprimer.
Primaire, je pense pas, mais bon.
Ouais. Enfin, primaire émotionnellement.
Peut-être. Ouais.
Mais je n'ai pas. Je ne sais pas mentir. De temps en temps, il faut savoir. Et donc, je pense que le problème aujourd'hui, c'est que tous les gens qui prennent la parole sont censurés. Ils ont une peur panique.
Oui.
Le politiquement correct a gagné.
Oui.
Moi, je ne suis pas
oui.
politiquement correct.
Oui, oui.
Le politiquement correct a gagné.
Ah, absolument.
Et c'est très impressionnant. Dans les entreprises, tout à l'heure, il y avait une très belle conférence sur le wokisme en particulier. Et aujourd'hui, personne ne lutte contre ça. Ça y est, les grandes entreprises ont pris le pli. Donc il faut être politiquement correct, il faut être du côté des minorités, il faut quelle qu'elle soit.
En fait, ce que vous dites, alors c'est pas forcément une mauvaise chose en soi, enfin, dans le sens de la préservation de l'identité. Le problème, c'est que on est obligé d'être d'accord avec tout le monde en fait aujourd'hui.
Voilà.
C'est-à-dire que dès que vous êtes contre, vous êtes forcément réac. Dès que vous êtes contre telle ou telle chose, vous passez pour quelqu'un de réac ou de conservateur. Comme si on nous avait ôté la capacité à critiquer ou à tout simplement ne pas être d'accord et ne pas approfondir les débats.
Et Eugénie Bastier, très talentueux journaliste, a écrit un bouquin, La guerre des pouvoirs. Et c'est exceptionnel. Et elle a dit une chose. Elle a dit, aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Pourquoi il n'y a plus de débat ? Moi, quand je suis en face de vous, j'ai envie de vous convaincre. Et puis, si vous êtes un ennemi, imaginons que vous soyez un insoumis, je serais très contente si on tombe d'accord sur quelque chose.
Bah oui.
Et aujourd'hui, il n'y a plus de débat, il y a des postures.
Absolument.
Vous êtes dans une posture, il n'est pas question que vous la quittiez, sinon vous êtes un traître. Donc il n'y a plus de débat. Et quand il n'y a plus de débat dans un pays, c'est effroyable.
Eh bien, c'est le signe évident, ma chère Sophie, d'un appauvrissement de la culture.
Mais on est d'accord.
Et de l'appauvrissement de la culture générale.
Et du courage.
Parce que l'absence de culture, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, vous ne formulez plus les arguments dont vous avez besoin. Et vous faites ce que j'appelle, moi, très souvent, de la manipulation d'idées sans contenu. Donc, il n'y a rien de pire que de manipuler des idées sans contenu. On va se quitter, on va parler un petit peu de l'agenda. Il y a toujours vos colloques, les colloques qui ont lieu tous les trimestres. Le prochain colloque, que l'on va faire chez nous, d'ailleurs, dans nos studios, c'est pour quand ?
C'est vous qui avez la date.
Ah, on a la date.
Je l'ai oublié.
Bon.
Mais il est très bientôt. Et c'est
on va me la noter là, rapidement sur le papier. Voilà, je vais demander à Stanislas de me noter.
Si vous me demandez des dates, c'est une catastrophe. Ce que je peux vous dire, c'est que nous recevons Jean-François Ruffin.
Oui.
Ruffin, et c'est un insoumis qui vient à Éthique, et ça va être très chaud parce que justement.
Absolument.
J'ai dit tout le monde a accepté, mais vous bien sûr non.
Ah, c'est François Ruffin.
Oui.
Très bien, le député.
Oui.
Ah, bien.
Et donc la France
Insoumise. Je me propose de faire l'édito, si vous voulez.
Très bien.
Voilà.
Et puis ensuite nous avons.
Ça sera le 27 septembre. Voilà.
Le 27 septembre.
À partir de 9h, hein, je crois. Voilà, on vous donnera les informations.
Ensuite, nous recevons... je n'entends pas ce qu'il me dit, parce que je n'ai pas tous mes agendas. C'est très, très... Pardon ? Le patron de TF1. Et ensuite, nous recevons le patron du Havre.
Absolument.
Edouard Philippe.
Alors,
et nous avons un colloque qui est formidable, qui est destiné justement à échanger, parce qu'on accuse toutes les boîtes de faire du greenwashing, d'être contre la planète, de faire semblant, etc. Et c'est faux, car si la planète est sauvée, et c'est ce que je vais expliquer à M. Ruffin, ce sera grâce aux entreprises et uniquement grâce à elles.
Eh bien écoutez, ce sera avec grand plaisir. D'ailleurs, c'est notre journaliste Fabrice Cousset qui normalement anime. Eh bien, je me proposerai, si vous voulez bien Sophie, de me joindre à lui pour l'animation, parce que ce projet-là m'intéresse énormément. Et c'est une excellente chose. Vous avez ce don de trouver des thématiques et de faire venir la Terre entière. Il y a un secret ?
Oui, il y a un secret. Je pense que c'est le bon sens.
Le bon sens.
Le secret, c'est d'accepter le bon sens. Et si vous voulez, il y a le nombre de gens, mais il y a 80% de la population française qui fait preuve de bon sens. Peut-être un peu moins. Et donc, quand vous prenez les vrais sujets qui interpellent les gens, ça marche.
Et
vous savez le faire.
Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va faire avec la publication qu'on fera avec les équipes d'éthique, justement, c'est le 27 septembre. Vers 8h30, 9h, peu importe les heures, on va les fixer, on va faire une communication autour avec des personnes de tous les bords. C'est très courageux d'avoir Ruffin. Ruffin, c'est quelqu'un qui a fait un documentaire qu'on trouve d'ailleurs sur Netflix et surtout les supports qui s'appelle Merci Patron.
Oui, et qui est très talentueux. Et d'ailleurs, Merci Patron, je vais poser des questions.
Et qui a...
Parce que LVMH a été piégé là-dessus.
Absolument. Et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur la réalisation. Et il faut lui reconnaître une vraie compétence.
Non, c'est un type très intelligent.
Absolument.
Mais qui est peut-être en train d'évoluer dans le bon sens.
Oui, il faut le savoir. Peut-être. On va faire tout ce qu'on peut lui souhaiter. Merci Sophie de Monton. Je rappelle que vous êtes la présidente du Mouvement Éthique. On retrouve sur Internet d'ailleurs le Mouvement Éthique. Et on se retrouve pour le prochain colloque qui aura lieu dans les studios de Web Radio Audition, le 27 septembre. Merci Sophie.
Merci.
L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème « Demain ne meurt jamais », un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Immo et Radio Territoria.